Le baptême est un signe, et vous avez là devant vous un signe. C'est un signe qui est la lettre Noun, qui est apposée sur les maisons des chrétiens, en Irak notamment, et aussi en Syrie, par Daesh, les islamistes. Un peu comme l'étoile juive était apposée aux juifs pendant la guerre. Donc ces signes ne sont pas forcément faciles à porter. Et le signe du baptême, c'est quelque chose qui doit nous remplir de joie. Mais on se rend compte que d'appartenir au Seigneur et de le montrer, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à vivre et peut-être un sujet de persécution. Donc nous allons considérer ce soir le baptême d'eau dans le cadre des rencontres d'enseignement biblique, et plus particulièrement dans le cadre de l'étude que l'on fait de l'Église. Alors nous allons parler des symboles chrétiens. Et le premier dont nous allons parler, c'est le baptême d'eau. Donc le petit plan de la présentation, d'abord il y aura un préalable où je vais juste évoquer la vie normale d'une assemblée. Qu'est-ce que le baptême ? Dans une deuxième partie, le baptême chrétien, le baptême d'eau. C'est Jésus-Christ qui a institué le baptême. Quelle est la signification profonde du baptême ? Qui peut être baptisé ? Quand être baptisé ? Le baptême et après ? Il y a l'enseignement qui est lié au baptême, il y a le repas du Seigneur qui suit le baptême, et il y a une petite conclusion que je ferai. Donc, en préalable, la vie normale d'une assemblée. Est-ce qu'il existe un moyen infaillible de stimuler, d'encourager et de booster la vie d'une assemblée ? Donc, c'est vrai que cette question nous a été posée d'une autre manière à pour eux. Mais la réponse, c'est oui. Qu'est-ce qui booste la vie d'une assemblée ? C'est les nouveaux convertis. Et s'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, il y a aussi de la joie dans l'église locale. Lors de la dernière rencontre, Nathanaël nous a rappelé qu'une des sept missions de l'église locale était l'évangélisation. C'est vital pour une assemblée. C'est une responsabilité, un exercice de l'église locale, que la lumière et la vérité soient visibles et que l'évangile soit annoncé. Dieu a donné un ordre de mission à ses disciples avant d'être élevé au ciel. Et je vous citais Matthieu 28, 18, et Jésus, s'approchant, leur parla donc à ses disciples, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Donc chaque nouveau disciple des nations doit être baptisé pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême ? Le mot baptisé vient du verbe grec baptizo, qui veut dire tremper, immerger, avec la connotation de périr. Le nom baptisma, baptême, ne se trouve pas dans la littérature juive ou païenne et semble avoir été une innovation chrétienne pour désigner le baptême de repentance, différent du baptême de purification que le juif pieux s'administrait lui-même. Et dans le Nouveau Testament, il y a différentes utilisations du mot baptême. Le baptême de souffrance, dans Luc au chapitre 12, il est dit, Jésus dit, j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il s'agit là d'un baptême de souffrance. Le Seigneur a en vue cette souffrance suprême qu'il va subir. Il a en vue la croix. Ce moment qu'il va vivre en pleine dépendance de son Père, mais ce moment qui le fera plonger dans la mort, qui ne le retiendra pas. Il est aussi parlé du baptême de l'Esprit. 1 Corinthiens 12 nous dit « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. » Opéré par l'Esprit divin, il a pour effet ce baptême de placer ou d'immerger en Christ chaque croyant, faisant de lui un membre du corps de Christ, et en l'unissant en même temps à tous les autres enfants de Dieu. Le temps du verbe « nous avons tous été baptisés » indique qu'il s'agit là d'une expérience initiale. L'homme régénéré n'a donc plus à rechercher le baptême de l'Esprit, ni un nouveau baptême, ce qui n'existe pas. Mais la plénitude de l'Esprit doit être constamment renouvelée. Il est parlé aussi du baptême de feu. C'est le jugement qui tombera sur les méchants. On trouve ça dans Matthieu 3, au verset 11, par exemple. Le feu est un emblème du jugement qui consume. Et puis le baptême d'eau dont nous allons parler est simplement, enfin, une sorte du baptême d'eau, on va en parler, c'est simplement l'affirmation et la manifestation de ce qu'est le baptême que l'Esprit a produit au fond du cœur. C'est la raison pour laquelle Paul peut déclarer qu'en réalité, il y a un seul baptême. Donc, dans les différents baptêmes d'eau qu'on trouve dans la parole, il y a d'abord le baptême, et dans le Nouveau Testament, il y a d'abord le baptême de Jean, qui est pour les Juifs seuls, et qui correspondait à l'entrée par la repentance dans les privilèges du royaume. Le baptême de Jean et le baptême chrétien sont l'un et l'autre en rémission des péchés. Ils diffèrent entièrement parce qu'ils appartiennent à des dispensations différentes. L'une où les péchés étaient supportés sans être encore expiés, donc l'ancienne alliance, la loi. L'autre qui succède à l'expiation accomplie par Jésus-Christ et qui correspond au temps de la grâce. L'un était seulement pour la repentance, l'autre est pour la mort. Mais la rémission des péchés dont ils parlent l'un et l'autre est fondée pour tous deux sur la même œuvre, bien qu'aucun d'eux n'effectue cette rémission. Ils sont des signes, aussi bien l'un que l'autre. Nous pouvons aussi remarquer que l'un a remplacé l'autre. On trouve ça dans Actes 19. Un peu plus loin dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Jean, il est parlé du baptême de Jésus et de ses disciples, bien qu'en relation avec le baptême de Jean, la Bible nous le présente plutôt en concurrence. Ce sont les disciples de Jésus qui sont baptisés. Ce baptême est en vue d'une relation avec Jésus vivant sur la terre et ne suppose aucunement la nécessité de sa mort. On trouve aussi la mention du baptême pour les morts dans 1 Corinthiens 15. C'est une expression étonnante, mais qui n'est employée que dans ce verset. Le baptême pour les morts était une pratique des Corinthiens qui niait la résurrection. Et il y a aussi le baptême chrétien que nous allons voir, institué après la mort et la résurrection de Christ. Il est porteur d'un message illustrant de façon symbolique un message spirituel intérieur. Souvent, il est dénaturé dans sa signification et dans son application, mais il reste le symbole chrétien par excellence. Pour des milliards de personnes, on devient chrétien quand on est baptisé. Donc, c'est Jésus-Christ qui a institué le baptême dans le verset que nous avons lu dans Matthieu 28. Le Seigneur a institué pour les siens, soit les membres de son corps, de l'Église universelle, deux gestes porteurs d'un message, le baptême et la scène, que nous verrons la prochaine rencontre. C'est Daniel qui traitera ce sujet. Le premier est une image parlante de notre mort avec lui. Le second, le souvenir de sa mort pour nous. On va pouvoir voir la signification profonde du baptême. Pour ça, je vous invite à lire dans Romains 6, depuis le verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Donc le baptême est une illustration d'une réalité spirituelle intérieure. C'est un témoignage et la suite logique de la conversion. Alors on peut se poser la question, est-ce que nous nous rappelons ou bien est-ce que je me rappelle du moment où j'ai réalisé devant le Dieu créateur à qui je dois tout, qui m'a créé comme vous, qui a tous les droits sur moi de vie, de mort comme sur vous. Est-ce que j'ai réalisé que je suis pécheur, que je ne suis pas juste, que je suis incapable de vivre dans sa proximité de justice? Pas seulement que j'ai commis tel ou tel péché, mais que ma nature humaine est dans l'impossibilité de vivre près de lui. Que Dieu est en colère contre moi. Que je suis anéanti, humilié, brisé. Que je ne pourrai jamais corriger ça moi-même. Que Jésus m'aime, qu'il a payé à ma place, qu'il m'offre son pardon, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a rendu juste devant Dieu qui est saint. Mais quel moment de joie et de reconnaissance! Quel bonheur peut nous envahir quand nous réalisons que nous sommes sauvés. Ces versets de Romains 6 nous expliquent que le baptême est une image de ce que Jésus a accompli à la croix, de ce qu'il a fait pour moi, comment il s'est identifié à moi pour payer à ma place, comment il m'a identifié à lui, parce que j'ai compris et accepté qu'il soit crucifié pour moi. L'expression baptisé pour sa mort. Christ est mort sur la croix. Dieu a considéré la mort de son Fils. Il en a pris acte. De même, Dieu, considérant l'homme qui devient croyant en Jésus, voit cet homme dans la même perspective, c'est-à-dire l'homme meurt comme son Fils. La foi chrétienne l'amène à être identifié, rendu semblable à Christ dans sa mort, en entrant avec lui dans l'expérience et le bénéfice de sa mort. Ainsi donc, sur le bois maudit, Dieu, le Fils, loin de Dieu, celui que Dieu a choisi, meurt. Il remet son esprit au Père et pour celui qui met sa confiance dans le Fils, Dieu opère. Tout vivant qu'il est, le chrétien meurt au monde et il n'est plus du monde. Mais en fait, c'est un fait et une réalité. Le chrétien ne s'en aperçoit pas. C'est un acte de Dieu. Christ a versé son sang. Dieu a estimé que la valeur du sacrifice de la vie de son Fils est telle que l'homme qui ajouterait foi passe à son tour par une mort semblable. Il meurt, mais sa dette envers Dieu pour les péchés passés est entièrement payé. Dieu a pardonné. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. C'est l'œuvre de Dieu pour nous, chrétiens, et c'est la joie du salut. C'est la paix qui inonde le cœur. Il y a aussi cette expression « enseveli avec lui ». Christ a été enseveli, placé dans un tombeau. Avec lui, nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême qui nous recouvre. Le baptême par immersion est l'image, le symbole de la mort de Christ et de notre mort. À nouveau, Dieu est l'image de son Fils. À l'image de son Fils, pardon, considère le croyant comme enseveli, autrement dit, le croyant disparaît du monde dans lequel il est né. Il était citoyen de la planète Terre, il ne l'est plus. Il est mort à la Terre, comme Christ, qui, ayant remis son esprit à Dieu sur la croix, est mort. C'est l'œuvre de Dieu, par la vertu de la mort de Christ, l'homme est retiré du royaume de l'ennemi, afin qu'il puisse accéder à une vie nouvelle, une vie spirituelle dominée par l'Esprit. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous aussi, marchons en nouveauté de vie. Et puis il y a ce fait que nous sommes, justement, si nous avons été identifiés dans sa mort, Christ est ressuscité des morts, alors nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Quoique vivant encore sur la terre, le chrétien est vu par Dieu comme étant entré dès lors dans le royaume de son Fils. Transporter, l'expression, il y a l'expression transporter dans le royaume du Fils de son amour, dans les Colossiens, sauf erreur. Comme Christ, il est passé de la mort à la vie, comme Christ, il est ressuscité avec lui, pour une vie destinée à être conforme à sa vie de résurrection. D'autres versions traduisent cette expression identifiée dans la ressemblance de sa résurrection par une même plante avec lui. Une même plante, si bien greffée que nous sommes un, alors nous ne le voyons pas de nos yeux, mais Dieu seul nous voit comme tel. C'est son œuvre et non la nôtre. Justifié et libéré du péché. Dans la version d'Arby, il est parlé de justifié du péché, dans la version second, de libéré du péché. Pour mourir une fois comme fils de l'homme, Christ est venu pour abattre le péché, ce virus implanté dans la race humaine et les conséquences de cette maladie. Les nombreux péchés dont nous avons à supporter la responsabilité. Il a donc vécu le mal originel et le corps du péché, notre nature pécheresse. Ce vieil homme ou ce corps de péché représente ce que nous étions avant le jour de notre conversion à Dieu et à Christ. Mais ce jour-là, beaucoup de choses ont changé et si apparemment notre corps n'a pas changé, en réalité, nous sommes liés à Christ et à sa vie. Nous ne sommes plus liés à notre être et à ses dispositions innées à faire le mal. Nos yeux regardent vers le ciel et vers une nouvelle patrie où la mort n'est plus. Seule la repentance envers Dieu et la foi en l'œuvre de Christ nous amènent au salut éternel. Le chemin vers Dieu est celui de l'humiliation d'abord, puis celui de la joie. En retour de l'immense amour que Dieu a eu pour moi ou pour nous, voulons-nous l'aimer en obéissant, en entrant dans la connaissance de sa volonté. En fait, le baptême, c'est un acte qui célèbre aussi l'œuvre glorieuse de Dieu dans le ciel et sur la terre. Des hommes reviennent à Dieu et à la vie. Qui peut être baptisé ? Alors, en considérant les versets des actes, nous voyons que ce sont ceux qui ont cru et qui sont scellés du Saint-Esprit. Je vous propose de lire dans Actes 2, depuis le verset 37, ce passage que Pierre adresse à la foule. Ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de compunction. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, Car à vous est la promesse et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait, exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Je lis aussi les versets suivants. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Alors, en considérant les différents baptêmes qui nous sont rapportés dans le livre des Actes, et ça, c'est le premier, on peut voir que le baptême est administré à ceux qui croient, hommes et femmes. On voit aussi qu'il est souvent immédiat. Il suit la conversion. On voit aussi qu'il n'y a pas de formation préalable. On voit aussi le cas de baptême de maison pour le geôlier de Philippe, pour Lydie, et dans Corinthiens 1, Stéphanas. Alors ce sont des versets sur lesquels s'appuient ceux qui comprennent plutôt le baptême des enfants de parents croyants. Mais c'est un privilège, le baptême. Et l'eunuque de la reine d'Éthiopie l'a bien réalisé, ainsi que Corneille. Ils avaient vraiment ce désir d'être baptisés. Ils ont considéré comme une faveur que l'on demande. Ils ont considéré le baptême comme une faveur que l'on demande. Pour le croyant, le baptême est donc un acte d'obéissance. Il n'est pas indispensable au salut, si l'on considère le cas du brigand sur la croix. Cependant, pour tous ceux qui sont capables de le recevoir, il est une manifestation d'obéissance au Seigneur qui a demandé d'observer tout ce qu'il a prescrit, entre autres le baptême. Et comme référence, il y a ce verset de Matthieu que j'ai déjà lu tout à l'heure, aussi verset de Matthieu. C'est aussi un témoignage. Celui qui se fait baptiser confesse par son acte aux yeux de tous qu'il croit en Jésus-Christ. Il exprime de façon visible sa décision intérieure qu'il a prise de suivre et de servir Jésus-Christ. Un tel témoignage est essentiel. Quiconque se déclare devant les hommes, c'est-à-dire publiquement pour moi, ça c'est une référence de Matthieu 10. C'est pourquoi le baptisé est souvent invité à confesser sa foi oralement. Ce témoignage est aussi éminemment utile au croyant lui-même. Il représente dans sa vie un point de repère et une aide précieuse pour le jour où surviendrait le doute quant à la certitude de son salut. Ceci dit, le baptême peut se vivre avec peu de personnes. Dans le cas de l'eunuque de la reine de Candace et de Philippe, ils étaient que les deux qui sont descendus dans le fleuve. Et dans le cas qu'on a lu tout à l'heure de Acte 2, le jour de la Pentecôte, il y en avait 3000. Donc il y a des changements d'échelle. C'est aussi un symbole des réalités spirituelles. Le baptême est une représentation par geste des grands faits spirituels qui se sont accomplis dans le croyant au moment de sa nouvelle naissance et qu'on a vu dans ce verset de Romains 6, ces versets de Romains 6 tout à l'heure. Il constitue de ce fait l'occasion d'une meilleure compréhension des réalités spirituelles et il aide à saisir le processus de l'expérience spirituelle qui, sans cela, pourrait rester un petit peu théorique. C'est aussi un engagement dans la voie de la sanctification. Si le baptême illustre les grandes vérités de la nouvelle naissance, il illustre également le principe de la sanctification. Le croyant accepte d'être mort avec Christ au péché et au monde pour vivre à la ressemblance de Christ. Celui qui demande le baptême accepte de s'identifier au petit troupeau des croyants et s'engage dans la voie de la sanctification. Je rappellerai quand même qu'il ne faut pas confondre la profession chrétienne et la nouvelle naissance. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. J'ai entendu l'autre jour que beaucoup de Belges demandaient à être débaptisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font partie d'un registre de l'Église catholique qui attestent le fait qu'ils ont été baptisés et qui fait d'eux, par ce fait-là, qu'ils sont inscrits dans ce livre des membres de l'Église catholique. Et donc, la plupart de ces gens sont ce qu'on peut appeler des gens qui ont une profession chrétienne, qui n'ont pas forcément réalisé ce qu'était la nouvelle naissance, et en plus, ils se font débaptiser. C'est qu'ils rejettent l'Église catholique en tant que telle, avec tous les scandales qu'il y a en Belgique, et ils vont dans la paroisse à laquelle ils font partie, où ils sont enregistrés, et ils demandent d'être rayés de la liste, et on leur donne un acte, comme quoi ils ne font plus partie de ce registre, qu'ils sont débaptisés. Alors j'ai appris quelque chose la dernière fois, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est quelque chose que m'a relaté Pierre Blond. Alors, je trouve intéressant de voir que t'on voit à quoi correspond le baptême pour certains, et puis à quoi correspond le baptême pour un chrétien né de nouveau. C'est quand même assez différent. La relation à l'appartenance à une église n'a rien à voir avec la relation d'appartenance au Seigneur. Et nous appartenons au Seigneur, qui nous a acquis par le prix de sa vie. C'est pas tous ceux qui se disent chrétiens ou qui ont été baptisés qui le sont. Puis d'autre part, il y a le royaume de Dieu et l'appartenance au corps de Christ. Reconnaître extérieurement la seigneurie de Christ ne prouve pas sa position de membre du corps de Christ. Je vous rappelle quand même que, par exemple, dans l'évangile de Marc, au début, on se rend compte que les démons savent très bien qui est le Seigneur Jésus. Et ils savent très bien que c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas pour tout ça qu'ils sont croyants. Reconnaître extérieurement cette seigneurie ne prouve pas du tout sa position de membre du corps de Christ. Comment être baptisé? Alors le baptême des adultes que l'on rencontre dans les actes, etc., lors de sa conversion, le croyant a immédiatement été régénéré et incorporé à l'Église par le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai déjà signalé la chose, c'est un acte de Dieu. Pour les premiers chrétiens, il y avait presque simultanéité entre le baptême de l'Esprit et le baptême d'eau. Chronologiquement, l'acte matériel baptême d'eau était étroitement lié à la réalité spirituelle baptême de l'Esprit. Aujourd'hui, il y a parfois un décalage entre le moment de la conversion et celui du baptême d'eau. Cela tient essentiellement à deux facteurs mis à l'épreuve de la foi du nouveau converti et l'acquisition de connaissances bibliques. Bien que ces précautions soient bonnes, elles ne doivent pas conduire à une attente démesurément longue du baptême. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'en savoir plus quand on est sauvé pour être baptisé. Il y a le baptême des enfants dont je voudrais parler. en rappelant que c'est un sujet de reconnaissance, que dans les assemblées, il n'y a pas eu de conflit concernant le baptême des enfants pour les uns et le baptême adulte pour les autres. Au début du XVIe siècle, à Zurich, les anabaptistes ont été persécutés. Il y a eu des exécutions auxquelles adhérait Zwingli, un réformateur. On voit que, historiquement, cette question a pu revêtir des caractères assez violents. Et pourtant, ceux qui ont démarré le mouvement des anabaptistes étaient deux disciples de Zwingli. Donc, il y a eu des choses aussi épouvantables parmi les chrétiens et les réformés. Les tendances sont, on peut remarquer que les tendances dans le cadre de l'Assemblée sont culturelles, puis elles sont assez marquées. Dans les pays anglo-saxons, en Allemagne notamment, en Suisse allemande, ils pratiquent plus le baptême des adultes. En France, en Suisse romande, le baptême des enfants était la règle, mais actuellement la tendance est plutôt au baptême des adultes. On a eu des rencontres de couple, des rencontres quand on était jeunes parents, où on nous a parlé du baptême. Et la personne qui nous parlait du baptême nous avait expliqué que lui, il comprenait bien le baptême des adultes, mais qu'il n'avait pas eu la foi pour ne pas baptiser ses enfants. Donc il avait baptisé ses enfants parce qu'il n'avait pas eu la foi de les laisser devenir adultes. Je trouvais ça intéressant et pour nous avons été baptisés enfants et nos enfants n'ont pas été baptisés enfants. Donc ils ont été baptisés adultes et c'est une grâce de Dieu qu'ils soient tous au Seigneur. C'est vrai que cela revêtait un peu un caractère, pas magique, mais enfin presque un caractère. Ils sont baptisés, donc ils sont protégés. Donc, mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Ça, c'est sûr. Alors, le Nouveau Testament ne le mentionne pas directement, mais on peut penser qu'il y a eu des enfants dans les baptêmes de famille, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Lydie, le geôlier de Philippe et Stéphanas. Là, c'est un petit peu le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il y en a qui voient le verre à moitié vide et l'autre le verre à moitié plein. Il y a ceux qui n'acceptent pas le baptême des enfants disent qu'il n'en est pas parlé, donc ça n'existe pas. Alors, voilà, c'est une manière de voir les choses dans le cas particulier. Dans 1 Corinthiens 7, on voit aussi que le mari non-croyant est sanctifié par la femme croyante et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant, ils sont saints. Ça pourrait laisser supposer que les enfants de non-croyants font partie de la famille de la foi. Que les enfants des croyants, pardon, même s'il n'y en a qu'un, ou les mêmes les deux, cela pourrait sous-entendre qu'ils font partie de la famille de la foi, mais dans Galates 3, Paul démontre que la participation à la vie de Christ est obtenue par la foi et non par la descendance physique. Plus on voit le baptême comme l'expression d'une foi personnelle, moins il est facile de soutenir la thèse du baptême des enfants. Plus on considère le baptême comme un signe de la grâce divine, plus il est facile d'accepter le baptême des petits-enfants. De toute façon, il ne faut pas surestimer le baptême comme les judaïsants surestimaient le baptême de la circoncision. Il y a une analogie que l'on trouve dans Colossiens 2, au verset 11, entre le baptême et la circoncision. La circoncision, c'était un rite accompli physiquement, par la main d'un homme qui agrégeait 8 jours après leur naissance tous les mâles au peuple élu. Donc, à partir de ce moment-là, il faisait partie du peuple élu. Le baptême circoncision de Christ se place sur un tout autre plan. Il opère spirituellement par la main même de Dieu pour tous ceux qui, hommes et femmes, deviennent membres de l'Église, corps de Christ, par la foi et la nouvelle naissance. Mais en tous les cas, ni la circoncision, ni le baptême sauvent. Les Juifs devaient se purifier par les sacrifices. Il y avait des sacrifices pour le péché. Et puis, si l'on n'accepte pas le sacrifice de Christ, eh bien, on ne fait pas partie du corps de Christ. Voilà en ce qui concerne le baptême des enfants. Mais alors le baptême, et après, dans les versets qu'on a lus dans Matthieu 28, c'était « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. » Le nouveau converti baptisé doit être enseigné pour sa croissance spirituelle, son affermissement. Il doit être équipé et préparé à résister aux attaques et accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées et placées sur son chemin. Comme il doit être équipé, par qui va-t-il être équipé? Donc il est bon de s'engager dans une église, une assemblée ou une église locale. Parce qu'en manifestant par le baptême que l'on est un enfant de Dieu, on ne peut nier que l'on fait partie du corps de Christ, l'Église universelle. Alors dans Actes 2, les versets que j'ai lus tout à l'heure, on voit que ceux qui ont cru se rassemblaient en un même lieu. Et en se rassemblant avec d'autres chrétiens en un même lieu, nous fréquentons une assemblée locale, tout simplement. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est là qu'il promet sa présence, et c'est là qu'on peut être, et que les nouveaux convertis en particulier, peuvent être enseignés et encouragés. Il y a aussi le repas du Seigneur, dont on va parler la prochaine fois. La participation au repas du Seigneur est une demande impérative de Jésus-Christ à ceux qui lui appartiennent. On voit ça dans 1 Corinthiens 11, c'est « Faites ceci », donc ça s'adresse en particulier aux nouveaux convertis. Et il est bon que ça ne tarde pas trop. Et aussi, il y a le service. Chacun a reçu un don et a la responsabilité de le mettre à profit pour la croissance de l'assemblée locale. Donc c'est encore une des raisons de s'engager dans une assemblée locale et pour encourager les autres. Alors je dirais en guise de conclusion que le baptême d'un nouveau converti est un encouragement et une joie riche et profonde pour l'assemblée locale. Et cela doit nous encourager, chers frères et sœurs, à l'évangélisation. Et comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un cadeau et une joie immense d'avoir des nouveaux convertis dans une église locale. Et cela booste et cela dynamise l'église locale. Voilà, alors ça c'est un autre signe nun, juste pour montrer la bibliographie où j'ai été chercher beaucoup d'indications concernant ce baptême. Donc il y a des sites, parce que maintenant ça devient de plus en plus facile d'aller sur des sites. Donc il y a le infobible.org, il y a bibleouverte.ch, ça c'est l'action biblique. Promesse.org, là il y a beaucoup de choses. Et puis il y a le commentaire du chercheur, le biblique du chercheur, et les commentaires du Nouveau Testament de John MacArthur. Alors, je vous remercie de votre attention.